Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie qui explore cette semaine les philosophies du Japon. Aujourd'hui, la parole est à Roland Barthes.
Alors là, le Japon, c'est parce que c'est un espace, j'ose pas dire un pays, n'est-ce pas? Parce que je ne veux pas faire allusion à la structure économique ou politique du Japon. C'est un espace de signes et c'est un espace à la fois très sensuel pour moi et très esthétique, qui est une extraordinaire leçon d'élégance dans la sensualité. Et c'est ça qui m'a touché au Japon.
L'auteur n'a jamais, en aucun sens, photographié le Japon. Ce serait plutôt le contraire. Le Japon l'a étoilé d'éclairs multiples. Ou mieux encore, le Japon l'a mise en situation d'écriture. Cette situation est celle-là même où s'opère un certain ébranlement de la personne, un renversement des anciennes lectures, une secousse du sens, déchiré, exténué jusqu'à son vide insubstituable, sans que l'objet cesse jamais d'être signifiant et désirable. L'écriture est en somme, à sa manière, un satori. Le satori, l'événement zen, est un séisme plus ou moins fort qui fait vaciller la connaissance, le sujet. Il opère un vide de parole. C'est aussi un vide de parole que constitue l'écriture. C'est de ce vide que partent les traits dont le zen, dans l'exemption de tout sens, écrit les jardins, les gestes, les maisons, les bouquets. Bonjour Éric Marty.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Le Japon opère un vide de parole, dit Roland Barthes, et pourtant il lui consacre tout un ouvrage magnifique appelé L'Empire des signes. C'est un paradoxe ?
Non, parce que c'est pas la parole, c'est l'écriture, justement. Et alors dans cette opposition d'ailleurs entre parole et écriture, on peut retrouver des choses qui préoccupent beaucoup l'époque, y compris au travers de Derrida ou au travers d'autres penseurs. Il y a une sorte de méfiance pour la parole. Il y a aussi une méfiance pour la connaissance comme appropriation, comme saisie, comme écrasement de l'objet. Et enfin, je pense à cette démarche aussi que le Japon, c'est vraiment l'autre, c'est vraiment l'altérité. Et là aussi, l'altérité, c'est un objet qui préoccupe beaucoup, beaucoup le moment, parce que finalement, on se rend compte que l'autre, tel que l'Occident le considère, c'est souvent une sorte d'image du même, qu'au fond, en cherchant l'autre, on ne fait que reproduire le même. Si on pense par exemple à toute la démarche de Foucault par rapport à la folie, c'est ce qu'il explique, comment l'Occident, justement l'Occident, a constitué le fou, en fait, pour précisément produire une anthropologie du même. Et donc la question de l'autre et du même, c'est des questions qui comment passer par-dessus le même, comment accéder à l'altérité. Et je crois que c'est justement en méconnaissant, peut-être, que Barthes y parvient. C'est-à-dire en refusant cette arrogance de la connaissance, de la science, du savoir, de la connaissance des civilisations, des cultures, mais plutôt en se laissant photographier, comme il le dit, c'est-à-dire en laissant le Japon le pénétrer, l'habiter, le faire vaciller le système symbolique qui est le sien. Et c'est en ça que la démarche n'est pas contradictoire du tout entre le vide d'une parole et puis un livre. Au contraire, c'est que réellement le Japon a une vertu heuristique d'ouverture, de découverte et de voilà d'ébranlement, de vacillation.
Tout le livre illustre cet ébranlement de la personne dont Barthes parle dès les premières pages jusqu'à l'objet même livre qui se tient. Enfin, ça, c'est plus qu'un objet, c'est plus même qu'un beau livre. C'est un livre où on trouve des textes très courts de Barthes et qui comportent des illustrations qui ont toutes un écho avec le texte lui-même. Et alors, quelles illustrations ? Ce sont des photos, des dessins qui sont vraiment magnifiques.
Qui sont magnifiques, alors qu'on sent en même temps des jeux. Parce que, d'une part, les images n'illustrent pas toujours le texte. Il y a vraiment des jeux de décalage, des jeux, des pièges, des formes d'itinéraires particuliers de l'illustration. Par exemple, tout ce qui est écrit à la main par Barthes, parce qu'il y a des passages, des morceaux manuscrits.
Oui, écrit par exemple sur la photo d'un jardin zen, là, voilà, la page que j'ai sous les yeux.
Par exemple, ou des petits schémas de rendez-vous. Par exemple, il y a tout un ensemble de notes où comment on fait pour prendre rendez-vous en japonais. Bon, et tout cela est lié au fond à la drague, à la relation, au contact avec l'autre. Et tout cela pour, au fond, pour arriver au plan d'un quartier de Tokyo, qui est le quartier Shinjuku, qui est le quartier gay de Tokyo. Ouais. Donc il y a tout un tas de dispositifs très compliqués, très obscurs, un petit peu comme ça, des images cryptées en quelque sorte qui jouent. Et puis parfois des images qui sont pas des images farces, mais des images qui forment le piège. Par exemple, la première image, la première photo du très beau jeune homme qui ressemble à qu'on croirait être un samouraï. En réalité, c'est la photo d'un jeune acteur pop, de chanteur pop, de très assez comme de chansons de musique commerciale, hein, et qui est donc dont l'identité n'est pas établie et qui sert justement d'appât à un Japon mythique, qui est celui oriental, mais qui en fait, si on connaît l'identité précisément de la personne qui pose, est en fait un Japon factice, un Japon de pacotille. Et il y a quelque chose d'un petit peu de très étrange de la part de Barthes de jouer avec ça, parce qu'à la fois il joue en effet avec le mythe, un mythe orientaliste en quelque sorte, avec le vide, avec toutes sortes, le zen, le mu, tout un appareillage en quelque sorte qui est très très mythologique, et en même temps il introduit dans cette mythologie des chausse-trappes, des espèces de pièges, où il se moque un tout petit peu, je crois, de la culture des japonisants, où il se moque justement un petit peu du savoir sur le Japon, où à la fois, si vous voulez, se présente lui comme méconnaissant le japonais, position d'être un petit peu...
Cliché de l'occidental qui
exactement,
découvre un pays exotique.
Voilà, qui regarde, qui est transparent en quelque sorte. Et en même temps, il n'est pas du tout naïf. Et en même temps, il y a des pièges, il y a des jeux, il y a tout un système symbolique d'images qui fait que, en réalité, ce n'est pas du tout un naïf. C'est quelqu'un qui aussi connaît les second degrés, troisième degré de cette imagerie japonaise ou cette imagerie orientale.
Vous parlez de mythologie. Rappelons que ce livre est écrit en 1970 après un voyage au Japon et donc plus de 10 ans après les mythologies de Roland Barthes que l'on connaît peut-être. C'est un peu la même formule, hein.
Ah, voilà, absolument. Et ça, c'est très important.
On parle de nourriture, de tradition, d'objets avec des textes très courts. Mais alors là, plus de 10 ans après, c'est comme si l'exercice même des mythologies avait été tiré à son meilleur, à son maximum.
C'est vraiment. À son meilleur. Mais c'est très important ce que vous dites, parce que en réalité, chez Barthes, tout part d'une forme d'intolérance à la culture, je dirais, française, petite bourgeoise ou bourgeoise, qui passe par la sémiologie ou qui passe par la mythologie, c'est-à-dire une forme de sémiologie critique, en quelque sorte. Pour Barthes, en fait, la bourgeoisie française ou la France, la petite bourgeoisie, fabrique constamment des signes, mais ces signes, elle les dissimule sous l'apparence naturelle. C'est ça qui définit, au fond, la francité, ou qui définit l'idéologie bourgeoise, l'idéologie française, même, pourrait-on dire. C'est une idéologie qui consiste à constamment maquiller les signes sous le naturel, sous l'évidence. Alors, ce déguisement, cette manière de dissimuler le signe sous le naturel, c'est une manière de rendre, de rendre la critique impuissante, et aussi de créer une forme de désert même sensuel, puisque au fond on a affaire qu'à des choses qui sont non cernées, non délimitées, non formulées, qui ont des formes les plus horribles pour Barthes, à savoir celle du plein. Et ce qui se passe avec le Japon, c'est que c'est une utopie heureuse, c'est-à-dire c'est une, contrairement aux mythologies qui étaient malheureuses, qui étaient des mythologies souvent, sauf quelques-unes comme la déesse ou cette voiture qui justement était une exception dans la culture française, au sens où comme voiture, elle affichait au contraire son dessin sémiologique. Mais alors, c'était la plupart des autres mythologies étaient très 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 critiques et très 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 tristes, très malheureuses, très très amères par rapport à la France. Le Japon est une forme d'utopie, une forme de mythologie heureuse où enfin un espace ne laisse aucun endroit sans signe. Il n'y a pas de place pour le non-signe, en quelque sorte. Tout est précisément pris dans cette dimension-là. Et c'est très important, évidemment, pour Barthes d'avoir découvert une forme d'oasis, de paradis, de contre-exemple, d'anti-France, en quelque sorte, parce qu'il y a une réelle, enfin, on n'est pas, on le voit moins aujourd'hui, mais à l'époque, je pense qu'il y a réellement une espèce de dégoût de la France dans le milieu intellectuel français. On vient de la guerre d'Algérie, le pétainisme n'est pas loin. Enfin, c'est des générations qui a vu une France assez horrible au fond. Et il y a un rapport de ces grandes violences par rapport à la France. Donc, d'où, alors, ce bonheur, justement, de passer, je dirais, du stade critique à un stade lyrique, en quelque sorte.
Ou de passer du steak frites à la tempura.
Voilà,
c'est exactement ce qui se passe.
Tout à fait ça. Tout à fait ça. Et là, c'est vraiment l'opposition, là, est tout à fait excellente parce que c'est deux mondes qui s'opposent de manière paradigmatique et très, très frontale.
Alors qu'il soit l'heure de manger, de petit déjeuner, de déjeuner ou de dîner, pour vous, chers auditeurs, voici la description par Roland Barthes de la tempura japonaise.
La tempura est débarrassée du sens que nous attachons traditionnellement à la friture et qui est la lourdeur. La farine y retrouve son essence de fleurs éparpillées, délayées si légèrement qu'elles forment un lait et non une pâte. Saisi par l'huile, ce lait doré est si fragile qu'il recouvre imparfaitement le fragment de nourriture, laisse apparaître un rose de crevette, un vert de piment, un brin d'aubergine, retirant ainsi à la friture ce dont est fait notre beignet et qui est la gangue, l'enveloppe, la compacité. L'huile, aussitôt épongée par la serviette de papier sur laquelle on vous présente la tempura dans une petite corbeille d'osier, l'huile est sèche, sans plus aucun rapport avec le lubrifiant dont la Méditerranée et l'Orient couvrent leur cuisine et leur pâtisserie. Elle perd une contradiction qui marque nos aliments cuits à l'huile ou à la graisse et qui est de brûler sans réchauffer. Cette brûlure froide du corps gras est remplacée ici par une qualité qui paraît refusée à toute friture, la fraîcheur. Parfois, la pièce de tempura est à étage. La friture contourne un piment, lui-même empli d'intérieur de moule. Ce qui importe, c'est que l'aliment soit constitué en morceaux, en fragments, non seulement par la préparation, mais aussi et surtout par son immersion dans une substance fluide comme l'eau, cohésive comme la graisse, d'où sort un morceau fini, séparé, nommé, et cependant tout ajouré. Mais le cerne est si léger qu'il en devient abstrait. L'aliment n'a plus pour enveloppe que le temps qui l'a solidifié. On dit que la tempura est un mets d'origine chrétienne. C'est la nourriture du carême, tempura. Mais affinée par les techniques japonaises d'annulation et d'exemption, c'est l'aliment d'un autre temps. Non celui d'un rite de jeûne et d'expiation, mais d'une sorte de méditation, autant spectaculaire qu'alimentaire. Autour de ce quelque chose que nous déterminons, faute de mieux, du côté du léger, de l'aérien, de l'instantané, du fragile, du transparent, du frais, du rien, mais dont le vrai nom serait l'interstice sans bord plein, ou encore le signe vide.
この冷房ギンギンの部屋で熱々の天ぷら、たまんないねこれね。
で。La dégustation de tempura a lieu sur France Culture, les chemins de la philosophie, en votre compagnie, Éric Martin. Nous parlons de l'Empire des signes de Roland Barthes, dans lequel on trouve ce texte incroyable, quand même, écrit. Enfin, comment on peut écrire un texte d'une telle beauté sur un aliment qui, aujourd'hui, paraît assez trivial, parce que l'évolution de la nourriture, du rapport à la nourriture en France, a fait qu'aujourd'hui, les tempuras sont beaucoup plus accessibles qu'elles ne l'étaient avant, j'imagine, en France. Et on voit ces beignets de crevettes qu'on trempe dans une sauce un peu aigre-douce, quand on va manger des sushis, c'est à ça qu'on pense. Et là, ce texte nous révèle une analyse de cet aliment absolument inattendue et très juste.
Très juste, et alors qui est aussi paradoxal, parce qu'au fond, Barthes, au fond, dit oui que il oppose d'abord constamment Occident et Orient, puisqu'il montre bien que voilà, c'est pas le beignet, c'est pas tout ça. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu étrange, parce qu'il dit que ça vient du Portugal et que c'est un mets de carême à l'origine. Mais au fond, lui-même, en faisant de la tempura un signe, ne prenait-il pas à nouveau je dirais pas le religieux, mais en tout cas une certaine théologie, ou une sémiologie théologique, ou une théologie sémiologique, je ne sais pas comment dire, de la nourriture. Parce que, au fond, tout est langage. La nourriture est structurée comme un langage, comme des signes, comme vraiment un monde de signes. Mais ça va plus loin, c'est que, il parle d'un signe vide, un petit peu comme une forme de hiérophanie, où le signe se montre, le sacré se montre, sans sacré, justement, mais en tout cas, il y a une sorte de révélation, du signe, comme tel, par la nourriture.
Alors, il faut nous expliquer ce que ça veut dire, parce que pour quelqu'un qui écoute le texte sur un beignet de crevettes qui parle d'épiphanie du signe, oui. On se demande ce que ça veut dire.
Eh bien, voilà, c'est ce qu'il dit à la fin. Il dit, donc on arrive à ce côté du léger, de l'aérien, de l'incertain, du fragile, du transparent, du frais, du rien, mais dont le vrai nom serait l'interstice sans bord plein, ou encore le signe vide. Ce signe vide, c'est précisément une lecture très, je dirais, alors très profonde, mais aussi presque théologique, encore une fois, de la nourriture. Un signe vide, on pense à une sorte d'eucharistie, ou en tout cas quelque chose qui se transmet, quelque chose de très, très élaboré, de très sophistiqué, qui se transmet précisément par la nourriture. Et donc c'est là où est le paradoxe, au fond, chez Barthes. C'est-à-dire qu'il ne, à la fois, il dessaisit, au fond, il oppose de manière très, très radicale, Orient-Occident, cette nourriture française, ou européenne, ou occidentale, de la nourriture japonaise. Et en même temps, ce qu'il va mettre en évidence, c'est que, dans le monde japonais, y compris dans les objets les plus humbles, les plus communs, comme la tempura, eh bien, quelque chose de presque une forme de transubstantiation s'opère, une forme de hiérophanie, de moment où le signe se révèle, se dévoile comme signe. Quelque chose alors comme une mutation de la matière en langage s'opère. Or, c'est ça, au fond, qui s'opère dans la religion chrétienne. C'est ce moment où le pain et le vin deviennent des signes. Eh bien, cela s'opère d'une autre manière, et dans un autre régime dans le monde japonais. Mais ce que fait Barthes, c'est de le montrer à partir d'une lecture matérielle, charnelle, de l'objet. C'est ça qui est assez fascinant. Et l'idée, au fond, c'est que ce que fait la nourriture japonaise, c'est en effet une forme de métamorphose sémiologique de la matière en langage, mais pas du tout pour aboutir justement à une forme de plénitude, une forme de marque où Dieu serait présent, quelque chose où le sens serait présent, mais non, au contraire, un signe où le signifié fuit sans arrêt, où le signe est vide, où rien ne vient plus bloquer justement la beauté et la sensualité.
Mais justement, peut-être parce qu'il n'y a pas de transcendance. C'est là où la métaphore théologique trouve ses limites, sans doute.
Voilà, tout à fait.
La crevette se signifie elle-même.
Mais quand même, le langage est transcendance. Si vous voulez, c'est un langage qui transcende la matière, où la matière devient langage. En ce sens, il y a bien une forme de transcendance, ou une forme en tout cas de mutation, de métamorphose, qui s'opère, mais précisément, non pas pour accéder un point d'arrêt qui serait justement une plénitude, un sens ou un dieu quelconque, mais qui maintient justement dans cette espèce de métamorphose, d'initiation, de cheminement, et qui maintient justement le vide comme l'élément le plus précieux que le Japon nous donne, puisqu'il évite justement au fond ce qui est l'horreur absolue pour Barthes et qui encore une fois est l'idéologie française, à savoir qu'au fond il y a toujours du sens commun dans les signes européens ou les signes occidentaux.
Parfois, au terme de vide, il préfère celui d'interstice, justement. Alors d'abord, il dit que le chef construit la tempura comme on construit une phrase. Il utilise une grammaire des aliments. Et puis, il va jusqu'à... Quand il qualifie la tempura de signe du vide, en fait, il précise de l'interstice car son intérieur est contourné par la pâte comme le palais impérial est contourné par une muraille. Oui. Et là, on comprend qu'en réalité, ce vide est toujours relatif. L'interstice dit bien qu'il y a un espace entre d'autres pleins. Et c'est cela ce que la friture qui recouvre la crevette nous révèle en réalité. C'est ce rapport à l'espace qui est très différent au Japon et de la nourriture japonaise que celui que nous entretenons avec la nourriture, avec notre propre espace en France.
Et d'ailleurs, l'illustration qui est mise en rapport avec la tempura n'est pas justement une tempura. C'est une très belle gravure, un dessin d'une jeune femme qui ouvre un rideau de cordes. Donc il y a une sorte d'interstice en effet qui est créé par cette femme qui est d'une très grande sensibilité par la figure même de l'ouverture, l'interstice et ce bras qui ouvre avec un petit chien au premier plan et le mot que Barthes extrait de la tempura, c'est l'interstice justement. Donc un mot très lui-même très très conceptuel, c'est un mot à la fois de l'espace, mais c'est en même temps un mot qui est très profondément conceptuel et qui manifeste tout ce travail au fond de mutation, de transformation où l'objet le plus insignifiant apparemment devient support à cet empire des signes, et l'empire des signes à ce moment-là prend tout ça.
Alors comment faut-il comprendre ce titre, l'empire des signes ?
L'empire des signes, c'est justement l'idée qu'il n'y a pas un seul espace qui soit délaissé. Aucun lieu, aucun sujet, le monde ne connaît pas la déréliction qui serait l'absence de signes, ou ce qui serait à savoir le n'importe quoi, le réel, le chaos, le grisâtre, voilà, tout est pris dans cette espèce de possibilité de signifier et d'être précisément inscrit dans un monde cerné, presque halluciné. Et là-dessus, je pense que c'est important peut-être de voir qu'il y a une forme d'hallucination dans la description que fait Barthes de la Tempora. Et tout est comme ça, parce que en effet, ce que Barthes voit à ce moment-là, c'est une tempora hallucinée, cernée par un regard. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, Barthes se dit qu'au fond, le Japon le place dans une sorte d'état de drogue, une sorte d'état de vision ou d'hallucination du monde, où la matière, le réel en quelque sorte, se diffracte dans un univers entièrement de traits, de plein, de vide, univers constamment cerné, constamment discerné aussi, un univers fait d'interstices justement, de chicanes, de vide et de contours. Et
ça va jusqu'aux aliments, on le disait, il y a aussi un chapitre sur l'eau et le flocon où il décrit comment l'utilisation du riz dans la gastronomie japonaise crée, c'est le fait d'amasser de petites composantes que sont les grains de riz et donc provoque une nourriture qui elle-même peut se décomposer à l'inverse de notre steak frites où finalement le steak est une espèce d'amas de viande qu'on ne peut pas vraiment décomposer.
Et se décomposer pour se recomposer dans une sorte de texte interminable en quelque sorte où la baguette évidemment joue un rôle essentiel puisque la baguette est vraiment l'anti-couteau, l'anti-fourchette, c'est l'anti-prédation, il définit la fourchette
les baguettes respectent l'aliment.
Exactement, comme l'être de la prédation. Donc du saisir et auquel précisément la baguette s'oppose. La baguette, c'est aussi ce qui désigne, ce qui montre en même temps, qui choisit, qui nomme, qui en quelque sorte montre ce qu'elle va pouvoir translater. C'est le verbe que Barthes emploie pour parler de la manière dont la baguette déplace l'aliment. Il dit translater, mot là encore. Et ça qui est fascinant aussi, c'est de voir comment le Japon le met en position non seulement d'écrire, mais d'ouvrir la langue française à des mots très rares, qui précisément sont comme sortis, je dirais, de la banalité ou du dictionnaire, en quelque sorte, uniforme de la langue. Comment le Japon le met en position de vivre la langue française dans ces mots presque étrangers à la langue française, le mot translaté, ou translation, renvoie plutôt au latin ou même à l'anglais, translate ou translation, plutôt qu'au français, comme si au fond, Barthes devenait étranger dans sa propre langue, précisément par cette position de l'empire des signes qui fait vaciller les codes, y compris ceux du français, en tant que langue finalement qui doit être elle aussi transformée, elle aussi qui doit subir cet empire des signes.
Mais l'empire des signes ne signifie pas que tout fait sens. Si, enfin, dire qu'il y a des signes qu'on peut tout interpréter en termes de sens, qu'il y a une forme de presque de saturation des signes décomposables qu'on trouve au Japon. Est-ce que ça veut dire que pour Barthes, chaque signe fait sens, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'absence d'indiscernement du sens et qu'on pourrait tout interpréter et tout lire à partir d'une grille de signes.
Je crois que alors tout signe en fait s'ouvre sur un autre signe. C'est l'une des très très belles légendes que Barthes écrit à propos d'une sculpture japonaise. C'est le signe est une fracture qui ne s'ouvre jamais que sur le visage d'un autre signe. Et c'est ça qui est important. C'est qu'au fond le sens est toujours remis à plus tard. On est dans un monde justement où les signes sont si bien agencés les uns les autres, sont dans des combinaisons tellement subtiles, des combinatoires tellement subtiles et tellement complexes qu'au fond le signe ne s'ouvre jamais sur un signifié qui va en fait l'empoisser dans une idée, mais le signe ricoche ou s'ouvre sur un autre signe qui va ainsi de signe en signe rendre impossible au fond un arrêt à un signifié quelconque. Et en effet, quand il dit que le signe ne s'ouvre jamais que sur le visage entre signes, c'est vraiment ça, c'est vraiment cet empire des signes en tant qu'il est un dispositif interminable, comme le texte. Il est, on se sent utopique, totalement utopique. Il est sans fin, sans commencement, et il est vraiment cette espèce d'univers circulaire où le signe est roi, mais d'une souveraineté qui justement n'est pas une souveraineté, je dirais, qui serait une souveraineté immobilisante, mais une souveraineté qui est celle de l'empire en tant qu'il s'étale, qu'il se déploie, qu'il se déplie aussi.
On ne trouve pas que des analyses gastronomiques dans l'Empire des Signes. Si on se promène aux côtés de Barthes dans le livre, on se retrouve à la gare, on se retrouve dans des analyses entre le dedans et le dehors, dans des papeteries aussi, l'importance de l'utilisation du papier et de la calligraphie, dans les corps, une analyse de la paupière. Et puis, on suit Barthes dans un théâtre, le théâtre de Bunraku, qui est un théâtre de marionnettes. Vous disiez que Barthes semble être sous l'emprise de la drogue lorsqu'il parle des temporales. Alors lorsqu'il parle du théâtre de marionnettes, là c'est plus de la drogue, ou alors c'est de la drogue vraiment très dure. Écoutez le texte et puis on en parle ensuite.
Les agents du spectacle dans le Bunraku sont à la fois visibles et impassibles. Les hommes en noir s'affairent autour de la poupée, mais sans aucune affectation d'habileté ou de discrétion. Et si l'on peut dire, sans aucune démagogie publicitaire. Silencieux, rapides, élégants, leurs actes sont éminemment transitifs, opératoires, colorés de ce mélange de force et de subtilité qui marque le gestuaire japonais et qui est comme l'enveloppe esthétique de l'efficacité. Quant au maître, sa tête est découverte. Lisse, nue, sans fard, ce qui lui confère un cachet civil, non théâtral. Son visage est offert à la lecture des spectateurs. Mais ce qui est soigneusement, précieusement donné à lire, c'est qu'il n'y a rien à lire. On retrouve ici cette exemption du sens, que nous pouvons à peine comprendre, puisque chez nous, attaquer le sens, c'est le cacher ou l'inverser, mais jamais l'absenter. Le Bunraku ne pratique ni l'occultation, ni la manifestation emphatique de ses ressorts. De la sorte, il débarrasse l'animation du comédien de tout relent sacré et abolit le lien métaphysique que l'Occident ne peut s'empêcher d'établir entre l'âme et le corps, la cause et l'effet, le moteur et la machine, l'agent et l'acteur, le destin et l'homme, Dieu et la créature. Si le manipulateur n'est pas caché, pourquoi ? Comment voulez-vous en faire un dieu ? Dans le Bunraku, la marionnette n'est tenue par aucun fil. Plus de fil, partant plus de métaphores, plus de destin. La marionnette ne singeant plus la créature, l'homme n'est plus une marionnette entre les mains de la divinité. Le dedans ne commande plus le dehors.
Le Bunraku, dont nous sommes en train d'écouter un extrait, Eric Marty, est un genre de théâtre dramatique datant du XVIIe siècle qui mêle alors des récits chantés, des instruments et surtout des marionnettes géantes dont Barthes nous dit que ceux qui les manipulent ne sont pas cachés. On voit tout, donc dedans, dehors, c'est le titre du chapitre dans lequel on trouve ce texte-là. Et on a une bonne idée ici de la méthode de Roland Barthes dans ce livre, hein, L'Empire des Signes, qui consiste à vraiment décrire un objet, une coutume, une habitude, pour éclairer en retour la culture même dans laquelle cette coutume baigne. Ici, l'analyse du théâtre nous renseigne sur la lecture que Barthes propose de la pensée japonaise, et pas juste du théâtre ou des marionnettes.
Tout à fait. Et avec, en effet, c'est un texte que j'aime beaucoup et qui est très important, qui est presque au centre du livre, puisque c'est dans les pages 60, dans la très belle édition que Le Seuil a refait de l'édition.
Oui, vous avez
originale.
Une autre édition que la mienne, qui a l'air beaucoup plus jolie.
Le Seuil a réédité l'édition originale, ce que Skira avait faite, qui est une collection magnifique, qui était l'essentiel de la création, où il y a des livres de Claude Simon, Lévi-Strauss, Aragon, etc. Et donc, où il y avait l'Empire des Signes. Et donc, on est vraiment au milieu du livre. Et le Bunraku, à mon avis, c'est quand même le passage pivot très important, avec 1000 niveaux de lecture. D'abord, peut-être il y a cette question, au fond, du choix du Japon et du choix du Bunraku, qui sont au fond des On est en 70, à une période ultra-gauchiste, où c'est pas du tout le Japon qui est une figure positive, c'est la Chine maoïste, où il y a une sorte de terrorisme politique, en tout cas de pression politique. Le fait de choisir le Japon, de faire un livre qui s'appelle « L'Empire des signes », où ce mot d'empire n'est pas non plus un mot très étrange, en odeur de sainteté à l'époque, c'est très intéressant. Et on voit ici comment Barthes va jouer avec ça, puisque le Bunraku, c'est pour lui l'occasion d'associer le théâtre aristocratique, qu'est le Bunraku, avec le théâtre révolutionnaire de Brecht et le texte moderne, celui de la modernité, de l'avant-garde au fond des années 70. Donc il y a toute une opération de stratégie de positionnement et d'insertion du texte Japon dans le contemporain. Car c'est pas du tout un livre qui serait intemporel, même si on peut le lire 50 ans après sa parution. C'est aussi un livre qui est vraiment écrit en 70, avec une conscience très très lucide de Barthes par rapport aux enjeux que sont ceux qu'il opère en investissant le Japon de cette dimension utopique dans une période politique qui est vraiment pour le moins anti-japonaise ou en tout cas qui va complètement contre les valeurs du Japon. Donc le Bunraku va être cette occasion justement de déjouer, je dirais, le stéréotype gauchiste ou les stéréotypes gauchiste ou le terrorisme politique de l'époque. Et ça qui est intéressant, c'est que le Japon, c'est pas seulement une machine de guerre contre l'idéologie française, en tant qu'elle est constamment, elle, dans le stéréotype, dans le sens commun, dans le signifié, c'est aussi une machine contre le terrorisme, je dirais, de l'époque. Et c'est là où le neutre, qui est une notion que Barthes élabore aussi à travers le Japon, est une manière de déjouer le sens commun, non pas par la terreur, mais justement par l'exemption du sens.
Donc c'est politique aussi comme texte, vous dites ça, finalement, une manière de déjouer l'idéologie, oui, le règne de l'idéologie en France.
Je pense que chez Barthes, il y a vraiment, les mythologies ont été pour lui une opération, alors, où en effet, la France réactionnaire a été mise au pilori, celle de Poujade, celle déjà de Le Pen, enfin, celle déjà de ce monde de droite, ou de cette pensée bourgeoise, mais il y avait également quelque chose de très anti-stalinien, puisque en faisant finalement une sémiologie, en ne faisant pas la chasse aux sorcières et la chasse aux mauvaises idées, mais en mettant en évidence que c'était en termes de signes qu'il fallait penser justement les phénomènes idéologiques, Barthes était aussi dans une démarche très de double opposition à la pensée bourgeoise et à la pensée stalinienne. Eh bien, on pourrait dire que l'Empire des signes, c'est un peu la même chose. Il est à la fois dans une démarche anti-occidentale, en valorisant cet Orient, ce Japon oriental, mais aussi dans une démarche où il montre une sorte de méfiance ou de défiance par rapport au terrorisme gauchiste, entre guillemets, qui domine de beaucoup cela, et en montrant comment un espace aristocratique comme le Bunraku peut être un espace justement critique, un espace de vacillement, un espace justement où des opérations de délivrance par rapport aux idées les plus, aux formes d'aliénation, les règles du sens peuvent s'opérer. Donc voilà, il y a ça. Mais il y a évidemment tout ce qui est en jeu dans ce brechtisme, entre guillemets, japonais, dans cette mise en évidence, en effet, des...
Barthes de l'artifice.
Barthes emploie tantôt le mot marionnette, mais souvent aussi le mot poupée, qui est un mot peut-être plus inquiétant, plus étrange, plus troublant que le mot marionnette. Pour désigner, c'est en effet ces marionnettes de 1 mètre ou 2 qui sont développées. Et surtout, l'idée qu'il va mettre en évidence, c'est les 3 écritures. L'idée, donc, d'un espace théâtral qui va mobiliser 3 niveaux d'écriture différents, puisqu'il y a donc la poupée ou les marionnettes qui sont agitées, qui sont très belles souvent. Et il y a les manipulateurs. Et puis, il y a ce que Barthes appelle le vociférant, c'est-à-dire le récitant. Et on est vraiment dans un univers rituel, un rituel extraordinaire, qui d'ailleurs fait penser beaucoup à la description que Barthes, par ailleurs, fera des cérémonies sadiennes, où il y a quelque chose comme une forme de rite avec le maître, justement, et puis tout un monde extraordinairement, artificiel, extraordinairement symbolisé, qu'est le Bunraku. Donc, il y a tout ça. Et puis, il y a un 3e niveau qui, je crois, est très important et qui montre une face plus profonde encore du livre. C'est tout ce que Barthes dit autour de l'inanimé. C'est-à-dire du fait que, justement, le théâtre français ou le polichinelle, la marionnette française ou italienne ou européenne, elle est constamment dans une sorte de valorisation du vivant. Le vivant, il faut faire vivant. Et dans un dédain de l'inanimé. Et Barthes dit non, voilà, c'est le contraire. Ce que met en évidence le Bunraku, c'est une forme de dévoilement de la puissance, de la force de l'inanimé comme justement ce qui, en quelque sorte, permet cette distance, permet cette sémiologie si fine, permet cet art, cette compréhension, et permet aussi cette dimension critique du théâtre, et cette jubilation, et cette, vous parliez en effet d'hallucination, et c'est tout à fait ça, c'est cette position où le spectateur Kebart, à ce moment-là, est en effet comme sous drogue, hein, il le dit d'ailleurs à un moment, il dit qu'il est dans une forme de, voilà, de situation du drogué, d'une sorte d'hyperesthésie intellectuelle qu'on attribue à certaines drogues, je cite. Hein. Donc il y a toute cette mobilisation à la fois de l'intelligence, de la dimension politique, de l'affect, des signes, de la sensualité, et qui passe par une très grande reconstruction ou reconfiguration du monde qui est justement par cette domination que pourrait avoir l'inanimé sur l'animé.
Oui, on peut même parler de dimension métaphysique, hein, parce qu'entre l'inanimé et l'animé, certes, mais aussi, pour reprendre le titre du chapitre, entre le dehors et le dedans. Ce que Barthes nous dit du théâtre du Bunraku, c'est qu'il renverse notre rapport à la divinité. C'est que le dehors ne contrôle plus le dedans.
Absolument, et l'âme ne contrôle plus le corps.
Ce qui est là, pour le coup, renverse, c'est une vision du monde qui est inversée.
Voilà. Et donc, il y a toute une forme de fétichisation aussi, peut-être du corps, du signe, de l'espace, par ce système. Fétichisation qui est liée justement au regard peut-être un peu halluciné que Barthes propose. Mais il y a cette idée aussi que ce qui est détruit par le Bunraku, c'est aussi les concepts très, très, je dirais, occidentaux de la personne, de l'individu, de l'intériorité et de l'âme. Puisque, par l'inanimé, ce qui est visé, justement, c'est cette substance qu'est l'âme, qui est, à l'époque, pour Barthes, une sorte d'objet répulsif. Un objet répulsif qui est constamment remis en cause par tout ce que le monde japonais peut mettre en évidence. Et alors, par exemple, il y a cette photo superbe à la fin du livre, où on voit seulement un morceau de visage avec deux yeux, et Barthes écrit « Les yeux et non pas le regard, la fente et non pas l'âme ». Et là, on a réellement le signe par opposition justement au signifié, la forme contre la substance, et aussi justement l'inanimé contre l'animé, mais dans un sens, on le voit bien cette fois-ci, qui n'est pas une opposition entre le mouvant et l'immobile, mais une opposition justement entre le dedans et le dehors, entre l'intériorité et une formalisation parfaite du monde.
Alors nous avons goûté des tempora avec Roland Barthes, on est allé voir ce spectacle de Bunraku, on va le suivre désormais dans une salle de jeu, alors une sorte de flipper japonais qui s'appelle le pachinko, c'est une machine dans laquelle on met des billes, qu'on propulse dans un circuit, hein, comme un flipper, et tout se joue à la façon qu'a le joueur de tirer cette petite manette pour propulser la bille, et tout se joue à cet endroit-là. Écoutez un extrait de ce texte lu par Roland Barthes lui-même.
L'Empire des Signes, au Japon. Pachinko. Le pachinko est une machine à sous. On achète au comptoir une petite provision de billes métalliques, puis devant l'appareil, sorte de tableau vertical, d'une main l'on enfourne chaque bille dans une bouche, pendant que de l'autre, à l'aide d'un clapet, on propulse la bille à travers un circuit de chicane. Si le coup d'envoi est juste, ni trop fort ni trop faible, la bille propulsée libère une pluie d'autres billes qui vous tombe dans la main et l'on n'a plus qu'à recommencer. Les halls de pachinko sont très nombreux et toujours pleins d'un public varié. On dit que le chiffre d'affaires des pachinko est égal ou même supérieur à celui de tous les grands magasins du Japon, ce qui sans doute n'est pas peu dire. Le pachinko est un jeu collectif et solitaire. Les machines sont rangées en longues files, chacun, debout devant son tableau, joue pour soi, sans regarder son voisin, que pourtant il coudoie. On n'entend que le bruissement des billes propulsées. La cadence d'enfournement est très rapide. Le hall est une ruche ou un atelier. Les joueurs semblent travailler à la chaîne. Le sens impérieux de la scène est celui d'un labeur appliqué, absorbé. Jamais une attitude paresseuse ou désinvolte ou coquette. Rien de cette oisiveté théâtrale de nos joueurs occidentaux traînant par petits groupes désœuvrés autour d'un billard électrique et bien conscient d'émettre pour les autres clients du café l'image d'un dieu expert et désabusé.
Venez jouer au pachinko, les règles ont l'air très simples. En revanche, pour acquérir le savoir-faire qui permet de gagner, il faut des années de pratique, hein, nous dit bien Roland Barthes, Éric Marty. Alors, le texte continue, mais l'endroit où Barthes s'est arrêté de lire, il était encore question de Dieu. Hein, conscient d'émettre pour les autres clients du café l'image d'un Dieu expert et désabusé. C'est là où on se dit bon, à la fois qu'il y a une portée métaphysique à ce texte, puisqu'il s'agit d'une vision du monde radicalement opposée à la nôtre, mais aussi sans doute que Barthes regarde le Japon à travers les yeux d'un occidental qui lui-même résonne en termes théologiques et résonne en termes d'un dieu qui se montrerait ou qui disparaîtrait aux yeux des autres.
Oui. Alors ce qui est frappant d'ailleurs, c'est qu'il dit tout ça à partir d'une pratique très populaire, très grossière, mais en tout cas, voilà. Et alors qu'on a beaucoup reproché justement à l'Empire des Signes de donner du Japon une image aristocratique, une image trop sophistiquée, une image trop esthétique, une image trop dandy au fond. Et en fait, pas du tout. On voit bien à travers du pachinko que Barthes connaît aussi le Japon.
Oui, puis la photo dit bien, la légende, oui, c'est mangeoire et latrine.
Mangeoire et latrine.
Pour décrire les gens qui sont en train de jouer au pachinko, tous alignés dans une salle.
Et il y a ici ou là beaucoup d'allusions à un Japon au fond assez vulgaire qui peut apparaître là, qui peut venir. Même à un Japon aussi parfois qui est un Japon inquiétant à un moment. Il y a une très belle image qu'il donne des sous-sols d'une grande gare de Tokyo où il parle de l'Inde noire, du commerce et des plaisirs. C'est, je crois, très, très, très juste, au fond, de mettre en évidence cette dimension aussi presque du tiers-monde qu'il y a parfois au Japon, encore aujourd'hui, et que Barthes a dû sans doute vu à ce moment-là. Mais pour revenir à votre question, en effet, c'est très important ce que vous dites à propos y compris dans le pachinko, l'absence de Dieu. Et en effet, on parlait de transcendance d'une absence de transcendance, mais tout de même, par le langage, forcément quelque chose comme une forme d'autre transcendance, mais une transcendance vide. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas, je verrais peut-être les choses. C'est-à-dire que Barthes n'est pas... Barthes est dans une sorte de critique, en effet, très profonde du système occidental, la métaphysique occidentale, de la personne, du sujet, de tout cela, du centre, de la vérité, de toutes ces archétypes qui sont fondamentaux. Mais pour autant, il ne lui oppose pas un matérialisme qui serait strictement immanent. En effet, la transcendance est défaite parce que ce que Barthes met en évidence, c'est un dispositif, ce sont des agencements, ce sont des combinatoires, donc en effet des circuits, des mécanismes, des itinéraires, des lieux sans la capitale de Tokyo comme étant une ville sans centre, sans point de vérité. Mais je ne crois pas qu'il soit pour autant dans une forme de désir d'un seul niveau, en quelque sorte. Cette absence de vérité, cette absence de centre, pour autant, n'est pas une forme d'espace de pure surface. Il y a, par le langage justement, des niveaux qui se mettent en place, des creux, des vides, des éléments qui viennent trouer en quelque sorte la surface. Et je parlerais peut-être plutôt d'une forme de transcendance du vide que précisément le langage, l'Empire des Signes, le signifiant, qui est aussi un mot qui revient très souvent dans l'Empire des Signes, comme pour désigner justement ce point où le signe est un signe dont le sens fuit sans arrêt, ou est reporté et remis à plus tard. Le signifiant qui joue ce rôle donc d'élément de repère, de construction, de formalisation du monde, est une forme de transcendance vide du langage lui-même.
Avec ce terme qui est très important, qui revient beaucoup au cours de ce texte, qui est celui de la prima. Le geste est celui qui est fait, c'est le même depuis le début. C'est l'impulsion du geste initial qui donne forme à l'œuvre elle-même dans le cas d'une œuvre, au dessin lui-même, au coup de flipper dans le cas du pachinko. Et finalement, ce geste à la prima est vraiment caractérise le geste japonais par excellence.
Oui, vous avez bien lu, parce que c'est en effet le leitmotiv du livre, constamment ce mot à la prima revient sans arrêt. Alors c'est de l'italien en plus qui revient pour désigner un fait japonais. Cela écrit par un français, il y a aussi un jeu des langues et des niveaux, mais c'est absolument le sans commencement ni fin au fond que Barthes veut saisir dans sa La Prima, l'espèce de sûreté sémiologique que le Japon permet et autorise. Et c'est ça, et il note l'absence de la gomme.
Voilà, il dit que c'est un pays où il n'y a pas de gomme.
Il n'y a pas de gomme.
En fait, quand on dessine ou quand on écrit, c'est-à-dire quand on la calligraphie, une fois qu'on a trempé le pinceau, on ne peut pas revenir en arrière.
Exactement.
On ne peut pas se tromper, on ne peut pas effacer.
Et Barthes prétend à ce moment-là que la gomme, ça sert à, c'est parce qu'on veut rectifier le signifié, et qu'il y a, c'est un besoin de signifier la gomme. C'est un besoin au fond, de maintenir un sens qui serait bien plein. Et voilà, le Japon est exempt de ce type d'opération. Et en effet, la prima est la figure pas seulement d'une maîtrise, c'est pas seulement la maîtrise qui fascine Barthes dans ce geste du joueur de pachinko qui, en effet, par son mouvement initial, parvient à construire un itinéraire et un mouvement parfait. C'est pas seulement la maîtrise, c'est aussi la sûreté, je dirais, du signe. C'est le signe lui-même est dans une forme de telle puissance, de tel hiératisme, en quelque sorte, qu'il est en quelque sorte ineffaçable et en tout cas non rectifiable.
Et le signe dans le langage, c'est pas seulement une lettre ou un mot, ça peut être tout un poème, ces poèmes courts qu'on appelle les haïkus, dit Barthes, ont cette propriété quelque peu fantasmagorique que l'on s'imagine toujours pouvoir en faire soi-même facilement. On se dit quoi de plus accessible à l'écriture spontanée que ceci ? Et là, il cite un haïku, c'est le soir, l'automne, je pense seulement à mes parents. Voilà. Fin du haïku, puisque c'est toujours en trois lignes à peu près. Il dit le haïku fait envie. Combien de lecteurs occidentaux n'ont pas rêvé de se promener dans la vie un carnet à la main, notant ici et là des impressions dont la brièveté garantirait la perfection et dont la simplicité attesterait la profondeur. Tout en étant intelligible, le haïku ne veut rien dire, etc. Et ça, à chaque fois que Barthes analyse un des aspects de la société japonaise, que ce soit le théâtre du bunraku, le flipper ou le haïku, il dit toujours cela ne veut rien dire.
Voilà.
Ça, c'est pour dire, mais c'est un signe qui ne renvoie pas forcément à un signifié, à un sens derrière. C'est la pure existence de ce signe, presque dans sa matérialité, non, Éric Martin?
Tout à fait.
Et cette dimension, il parle de sensorialité, mais c'est de la matière qui l'intéresse.
Alors, d'autant plus dans le cas du haïku, qui est une forme extraordinairement perceptible. C'est-à-dire, c'est son trois vers avec un nombre de syllabes très précis. Donc, il y a le haïku, c'est pas seulement, en effet, un poème, c'est aussi une forme graphique, une forme d'écriture qui, y compris en français, y compris même transposée, même traduit, conserve tout de même cette espèce de puissance visuelle, graphique, comme vous le disiez, qui en fait à la fois une série de signes, puisqu'il y a des mots qui sont là disposés en trois vers, mais dans sa totalité même, qui en fait un signe à lui tout seul. Donc il y a en effet... Alors le haïku, c'est aussi, je parlais du bunraku comme le passage vraiment central du livre, mais le haïku, évidemment, est celui et aussi peut-être l'objet qui est le plus longuement déplié au travers de plusieurs chapitres avec les fractions du sens, l'exemption du sens, le tel, etc., qui vont déployer le haïku. Et d'ailleurs, le haïku va être un élément dans l'aventure, je dirais, de penseur et d'écrivain de Barthes très important, puisque le dernier cours qu'il va faire au Collège de France, la préparation du roman, il y aura un nombre 5 ou 6 séances qui seront consacrés au haïku pour le roman. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que le haïku est devenu, au fond, pour Barthes, un objet qui dépasse précisément sa nature poétique, d'être poème, pour être pensé en vue du roman, parce que justement, le haïku serait un monde romanesque absolu, serait un monde parfait du romanesque
qui ne décrit pas, mais le haïku ne décrit ni ne définit jamais.
Il désigne comme la baguette lorsqu'on mange, et c'est montré en quelque sorte qui est aussi un acte sémiologique qui est parfait, qui est un acte qui n'est pas, qui ne déborde pas. C'est ça qui est peut-être que Barthes aime beaucoup dans le haïku, c'est ce cerne aussi, cette manière d'être délimité. Cette forme parfaite, en quelque sorte, par ses limites, que Barthes admire dans le haïku. Mais, bien sûr, au sens où le haïku, c'est aussi une machine. C'est pas seulement un signe, c'est aussi une machine merveilleuse, un dispositif extraordinaire par où le sens, justement, est en effet exempté ou disparaît ou effacé, en quelque sorte.
Il y a tellement de choses à dire sur ce texte. Il ne reste déjà plus que 2 minutes, Éric Martin. On n'aura pas le temps d'entendre un dernier texte qu'on avait convenu de faire entendre, mais commentons-le quand même, parce qu'il s'agit c'est l'idée du travestissement dans le théâtre kabuki, dans le texte qui s'appelle Le visage écrit. Et il y a cette idée assez étrange que l'homme peut jouer un rôle de femme. Le travesti, dit Barthes, est ici le geste de la féminité et non son plagiat. En clair, quand le travesti occidental veut être une femme, eh bien il souhaite être cette femme, alors que l'acteur oriental ne cherche rien d'autre qu'à combiner les signes de la femme. Si bien qu'on peut voir un homme bedonnant d'une cinquantaine d'années jouer une petite fille et qu'il n'y a aucun problème.
Oui, alors c'est un passage très important aussi, bien sûr, parce que c'est une question qui nous touche aujourd'hui beaucoup, la question du travesti, la question des sexes, des genres. Et Barthes a une lecture très originale, je dirais complètement anti-butlerienne, on pourrait dire, de la question. C'est vraiment l'anti-drag queen, on pourrait dire, alors que le drag queen a cette fonction, je dirais, de nous faire éclater de rire, dit Butler, pour nous permettre de comprendre que le genre n'est pas le genre. Eh bien, chez Barthes, on ne rit pas, on n'éclate pas de rire, et il s'agit d'autre chose, justement, qu'une transgression des genres. Et il s'agit d'un déplacement. Et ce que Barthes met en évidence, c'est justement peut-être le caractère, là aussi, graphique du travesti. C'est-à-dire le travesti oriental, qu'il appelle le travesti oriental, celui du kabuki, justement, n'est pas une femme. Ce sont les signes de la femme qui sont construits par le travesti. Et c'est en ça qu'il y a réellement un travestissement. C'est-à-dire, il n'y a pas imitation, il n'y a pas copie. Le travesti ne copie pas la femme. Et cela, dans la vulgarité du drag queen, justement, à coup d'accessoires grossiers et de simulations coûteuses, dit Barthes. Non, il y a une réécriture de la femme. La femme est écrite par le travesti. Au fond, le travesti, c'est un graphiste. C'est quelqu'un qui réécrit le corps de la femme à partir seulement de signes et non pas de pseudo-marques du féminin, mais à partir du signe du féminin, qui sont magnifiques. Alors, Barthes nous montre une photo tout à fait extraordinaire d'un acteur de kabuki qui est justement dans une délicatesse totale, une forme de c'est une sorte d'idéogramme de la femme que l'acteur montre. Et cela, Barthes le parvient à toucher quelque chose, je crois, de très important pour nous aujourd'hui encore.
Eh bien, conseillons aux auditeurs de se référer au livre et à ce texte, donc Le Visage écrit, dans lequel on trouve ces analyses sur le travestissement dans le théâtre kabuki. Et puis donc lire L'Empire des Signes, quelle que soit l'édition. Votre édition, la plus récente, donc republiée au Seuil, propose des dessins beaucoup plus, mis en valeur, colorés et encore plus beaux. Je dois dire que celle que j'aime, et les deux fonctionnent très bien. On trouve le texte de Barthes dans les deux cas.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Éric Marty, d'être venu nous donner envie de lire ce texte aujourd'hui. On se quitte avec une chanson japonaise, un choix de Nicolas Berger.
Oh, my baby.
Rendez-vous. Kimi no sunda hitomi. Boku wo moe saseru.
Kore kara doko e yuku no?
No, I don't know, my honey.
Watashi mo wakaranai no?
No, I don't know too.
Aoi tsuki no shita o itsu made mo futari de. Du 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 du. Anata o aishiteru no?
Yes, I love you too.
Kokoro ga itai hodo yo.
Wa kimi no subete minna suki nano sa
yasashiku kuchizuke shite.
Oh yeah,
asoko no kokage no naka.
I hope so.
Aoi tsuki no shita o itsu made mo futari de.
Tsukikage no rendez-vous. Vous écoutez Keiko Marie sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Anastasia.
Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Vous le savez sans doute comme moi, la France est l'un des rares pays au monde à imposer la philosophie comme matière obligatoire au lycée. Plus précisément en classe de terminale, dans la voie générale, mais aussi dans la voie technologique. Cette décision d'imposer l'enseignement de la philosophie aux adolescents remonte au Premier Empire et s'inspire de la pratique des collèges jésuites du XVIIIe siècle. La généralisation de l'enseignement de la philosophie dans tous les lycées correspond historiquement à la fois à la volonté de former des citoyens éclairés, mais aussi à la conviction que la philosophie, tout comme les mathématiques, la géographie ou encore l'histoire, fait partie des enseignements fondamentaux que l'État se doit de garantir. Mais alors, si cette matière est si fondamentale à la formation des esprits, pourquoi la circonscrire à la dernière année du lycée ? On voit très bien le genre d'arguments qui ont dû être avancés. La philosophie est une matière exigeante qui demande beaucoup d'attention, une certaine maturité ou encore une capacité d'analyse qui ne peut éclore qu'à partir d'un certain âge. Eh bien, c'est pour combattre tous ces préjugés qu'un collectif de chercheurs et enseignants a décidé de créer un manuel publié cet été aux éditions Hatier et qui s'intitule « Pourquoi et comment philosopher avec des enfants, de la théorie à la pratique en classe ». Pour les auteurs, renoncer à faire philosopher les enfants, c'est renoncer à battre le fer tant qu'il est encore chaud. C'est renoncer aussi à se servir de l'énergie spirituelle qui anime les enfants dès 6-7 ans, c'est-à-dire dès l'âge de raison. Il y a en effet quelque chose d'étonnant dans la faculté naturelle d'émerveillement des enfants, dans la naïveté avec laquelle ils posent souvent les questions les plus cruciales. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Qui suis-je ? Philosopher avec les enfants, c'est donc admettre que ces questions n'ont rien d'absurde, bien au contraire, et qu'il ne sert à rien de faire taire les consciences avant de les réveiller à l'adolescence. Seulement voilà, dans la préface, Abdennour Bidar, philosophe de son état, mais aussi inspecteur général de l'éducation nationale, prévient « Philosopher avec les enfants ne s'improvise pas ». Être animé par les meilleures intentions du monde, avoir la passion de la philosophie, être enthousiaste, cela ne suffit pas. Encore faut-il savoir ce que l'on fait et où l'on va, sans quoi l'initiation à la philosophie peut devenir une espèce de vague questionnement décousu, un enfilage de perles plus ou moins réussi, ou encore une discussion du café du commerce, où l'enseignant ne ferait qu'inculquer ses propres préjugés sans même s'en apercevoir, au lieu d'apprendre aux enfants à penser par eux-mêmes. Pour réussir, il faut donc suivre une méthode, et c'est exactement ce que propose l'ouvrage sous la direction d'Olivier Blond-Jevuski. La première partie du manuel est consacrée à la question du pourquoi. Elle présente les fondements didactiques et philosophiques de l'enseignement de la philosophie aux enfants. Les auteurs y abordent la diversité des pratiques, leur histoire, les enjeux, le sens et les finalités des ateliers philosophiques. Il s'agit de lever les malentendus les plus fréquents et d'apporter des réponses aux critiques habituelles. Les auteurs s'attachent également à présenter les grandes méthodes existantes et n'hésitent pas à aborder la question de la diversité des publics et de la nécessité qu'il y a pour les enseignants à s'adapter dans la mesure du possible à leurs élèves. La deuxième partie du manuel est consacrée à la question du comment. Elle recense et présente différents outils existants. Les supports inducteurs, c'est-à-dire la littérature jeunesse, les dessins animés, les films, les tableaux, les photographies, mais aussi la place de l'écrit, la question de l'évaluation, l'exploitation de situations réelles et tous les ouvrages spécialisés déjà existants, dont les fameux « Goûter philo » aux éditions Milan, qui ont bercé bon nombre d'enfance. Enfin, la troisième et dernière partie de l'ouvrage propose 32 fiches thématiques extrêmement bien faites qui abordent un tas de sujets, comme la peur, l'amitié, la liberté, la vérité ou encore la violence. Chaque fiche est composée d'une présentation succincte des enjeux, de supports littéraires et artistiques, d'indications d'ouvrages de philosophie pour enfants dédiés à la question, de contenus qui permettent de mieux problématiser et conceptualiser les sujets avec les enfants. Bref, la lecture de ce manuel nous ferait presque regretter les bancs de l'école primaire. Elle finit surtout par convaincre qu'enseigner la philosophie aux enfants est essentiel. Montaigne lui-même ne disait pas autre chose quand il écrivait dans ses essais « La philosophie, on a grand tort de la peindre inaccessible aux enfants. Puisque la philosophie est celle qui instruit à vivre et que l'enfance y a sa leçon, comme les autres âges, pourquoi ne la lui communique-t-on pas ? La philosophie a des discours pour la naissance des hommes, comme pour la décrépitude. »
Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie. Nicolas Berger est à la réalisation cette semaine. Alice Seyed à la prise de son aujourd'hui. Merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France qui nous a beaucoup aidé pour illustrer musicalement cette émission. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur les philosophies du Japon. Demain, nous serons en compagnie du professeur en études cinématographiques Hervé Joubert-Laurencin, grâce à qui
nous pénétrerons ou découvrirons le monde et l'envers du monde paisible du cinéaste Miyazaki. Le voyage de Chihiro et mon voisin Totoro, ça ce sera le programme de demain matin à 10h. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture. Vous pouvez réécouter les émissions en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, on se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.